en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Le 21 janvier 2013, Philippe Iribarne, directeur de recherche au CNRS, ingénieur formé à l'économie, l'auteur de La logique de l'honneur, était l'invité de l'Académie des sciences morales et politiques pour prononcer en séance devant les académiciens une communication sur le thème de la France dans le monde. Un thème initié par le président de l'Académie en exercice pour l'année 2013, l'académicien Bertrand Collomb. La communication s'intitule « Une voix française dans la modernité ». La question est de savoir comment les Français vont s'adapter à la mondialisation. Canal Academy vous propose d'écouter la retransmission de cette communication. Retrouvons en séance Philippe Iribarne.
Merci, grand merci de m'avoir invité à parler parmi vous de ces sujets qui me tiennent à cœur, bien des questions que se posent actuellement les Français. Et comme cela vient d'être dit, au fond, il est très coutumier actuellement de se plaindre des Français ou de se déplorer même la façon dont les Français n'ont pas l'esprit d'entreprise de la Silicon Valley, n'ont pas les rapports sociaux apaisés des Allemands, ne pratiquent pas la flexisécurité à la danoise, etc., etc. Enfin, donc vraiment, et on passe son temps à dire que les Français devraient en suivre d'autres. Je voudrais citer par exemple l'ancien président Nicolas Sarkozy, disant « Ce n'est pas faire du mimétisme idéologique que de vouloir s'inspirer de ceux qui, en Europe, ont su trouver le plein emploi et de vouloir tourner le dos aux méthodes de ceux qui n'en finissent pas de s'enfoncer dans le chômage de masse. C'est au contraire de l'aveuglement idéologique que de refuser dans notre pays ce qui se fait ailleurs. » Et ce dont je voudrais vous parler, au fond, c'est le fait que derrière et associé à ces dénonciations, on pourrait s'attendre à ce que soient entreprises des réflexions pour comprendre très précisément où se situe le problème, pourquoi les Français n'ont pas des rapports sociaux apaisés, pourquoi ils n'acceptent pas la flexisécurité, pourquoi ils n'ont pas le dynamisme entrepreneurial de la Silicon Valley, etc. Et on pourrait penser qu'il serait rationnel de chercher à la fois dans ces raisons quelle est la part de ce qui relève de choses essentielles que l'on n'arrivera pas à changer et quelle est la part de ce qui relève de stratégies peu intelligentes et de manière peu intelligente de se débrouiller avec ce qui est ainsi un caractère structurel. Or, malheureusement, on doit constater que l'on considère les politiques ou même que l'on considère les travaux, disons, plus académiques, la question n'est guère posée, et en particulier, et très largement ignorée, la question de savoir, au fond, dans quelle mesure une même situation dite objective, par exemple, prendre un nouveau travail, pour un intermittent du spectacle devenir serveur de bar, par exemple, ou n'importe quoi d'autre, pourquoi la même situation dite objective n'a pas le même sens pour des Français, pour des Allemands, pour des Américains, des Japonais, des Suédois, etc. Et donc, ce travail consistant à dire dans quel univers de sens sont les Français, et en conséquence, comment s'adapter à cet univers de sens et comment tirer le meilleur parti de cet univers de sens, n'est largement pas fait. Alors, ce que je voudrais essayer de faire avec vous, au fond, c'est d'explorer, disons, les directions dans lesquelles on peut imaginer progresser, disons, dans ce domaine. Première chose, disons, que je voudrais voir avec vous, c'est à quel point les Français vivent, y compris au sein des pays de culture européenne, dans un univers mental qui leur est propre. Alors, non pas qu'il y ait les Français d'un côté et tous les autres de l'autre, hein, parce que les Allemands vivent dans un univers mental qui leur est propre, les Anglais aussi, les Américains aussi, les Italiens aussi, etc. Non, les Français sont singuliers, comme les autres sont singuliers. Pas plus, disons, mais pas moins. Mais on pourrait dire, au fond, comment se fait-il? Nous sommes dans des démocraties, au fond tous les pays européens partagent les mêmes valeurs, les valeurs de liberté, les valeurs d'égalité. Tous les pays européens ont construit ensemble leurs idéaux. L'Angleterre a inspiré la France a inspiré l'Allemagne, etc., etc. Au fond, comment se fait-il qu'il y ait encore, disons, des divergences profondes d'univers mental entre eux? Et quelle est la nature, disons, de ces divergences? Alors, on peut le voir si on en considère, au fond, qu'est-ce que c'est que dans chacun de ces pays, européens ou de culture européenne, qu'est-ce que c'est que d'être un humain digne de ce nom? Qu'est-ce que c'est que d'être un citoyen? Qu'est-ce que c'est que d'être un homme libre? Et l'on voit que, quand au XVIIIe siècle, à l'époque des Lumières, nos philosophes ont construit dans l'ensemble de l'Europe l'image de la liberté, l'image de l'homme libre, et ont voulu faire de la liberté non plus l'apanage réservé à une courte minorité de privilégiés, mais le plus fondamental des droits de l'homme, on peut voir que chacun, dans chacun de ces pays, la vision traditionnelle de l'homme libre, vision que Marc Bloch a bien analysée par exemple déjà au Moyen-Âge, que cette vision traditionnelle a inspiré les philosophes dans la manière dont ils ont conçu la liberté. Alors, on pourrait parler fort longtemps de cela, je vais juste résumer, disons, en quelques mots. On voit dans l'univers anglo-saxon, la figure de l'homme libre a été la figure du propriétaire. Et c'est très net, par exemple, dans l'œuvre de Locke, dans lequel on voit que Locke considère que, pour lui, dans ce qu'il appelle les biens propres d'un individu, his property, comprennent à la fois sa vie, sa liberté et ses richesses. Ce qui, pour un Français, est un peu choquant de mettre dans le même sac la vie, la liberté et les richesses. Pour un Français, c'est très différent. Pour un Anglais, non, ce n'est pas différent. Et en quoi ce n'est pas différent? Parce que toutes les trois sont des éléments qu'il convient de protéger contre les empiétements d'autrui. Et le fond, disons, que l'on trouve en Angleterre et que l'on va retrouver aux États-Unis, par exemple dans le fédéralisme, mais qu'on va retrouver toujours dans la société américaine contemporaine, est ce désir d'être à l'image du propriétaire qui contrôle son existence, qui contrôle son destin et qui peut empêcher à autrui, à quiconque autrui, de venir interférer et l'empêcher de régler lui-même ses propres affaires, de déterminer lui-même son propre destin. Si l'on va en Allemagne, on trouve une conception de la liberté qui est différente. C'est très net chez Kant, par exemple. On a une bonne expression de la vision dont Kant voit l'homme accompli. Je cite, « Il regarde, dit-il avec horreur, les arbres qui lancent à leur gré leurs branches en liberté à l'écart des autres et de ce fait poussent rabougris, tordus et courbés. » Et au contraire, il célèbre le fait que, dans une forêt, les arbres, justement parce que chacun essaie de ravir à l'autre l'air et le soleil, se contraignent réciproquement à chercher l'un et l'autre au-dessus d'eux, et par suite, ils poussent beaux et droits. Donc on est dans une vision dans laquelle l'homme libre, l'être humain digne de ce nom, est celui qui, avec tous ses semblables, tous ses congénères, va décider ensemble, tous pour un et un pour tous, dirait Kant, décider des affaires de la communauté. Et l'on peut voir dans l'univers allemand des individus, des penseurs ayant des points de vue politiques aussi opposés par exemple que Fichte ou Habermas, l'un vraiment défendant l'Allemagne dans sa pureté et l'autre Habermas vraiment l'humanité dans toute sa généralité, partager cette vision de l'homme digne de ce nom qui est le membre d'une communauté qui va dans cette communauté décider des affaires de tous. Alors, si l'on va en France, on a encore, disons, une autre figure dans laquelle Tocqueville expliquait bien, disons, que la liberté pour les Français est intimement liée à l'idée d'exception et de privilège. L'être digne de ce nom pour les Français est quelqu'un qui va être traité avec les égards qui sont dus à son rang et qui, en même temps, va être prêt à être exercer les responsabilités qui sont les responsabilités de son rang. Il y a quelque temps, feu le président François Mitterrand, qui était invité à parler de son mandat, à expliquer que c'était son mandat, avait répondu « Mon mandat, c'est une noblesse et je veux en être digne de la manière que je déciderai ». Et disons, en se faisant ainsi, il exprimait quelque chose, disons, que l'on va rencontrer chez les Français de manière extrêmement générale. Et je suis sûr que chacun d'entre nous, s'il était interrogé profondément sur la manière dont il conçoit, disons, ses responsabilités, ne serait pas si loin, disons, de notre président. Donc, si vous voulez, on est dans des choses qui sont très très structurelles, qui vont distinguer les peuples. Comme je l'ai évoqué, donc Marc Bloch montre que cela a déjà existé, disons, au Moyen-Âge. Et je dirais que pour ma part, le choc intellectuel le plus grand que j'ai eu, disons, au cours de toute ma carrière de recherche, a été quand, après avoir étudié, comme Bertrand Collon l'a dit, des usines situant aujourd'hui aux États-Unis, en France et aux Pays-Bas, et avoir vu comment se passait la coopération, les formes d'autonomie que chacun exigeait, et comment se passait la coopération à l'intérieur de l'entreprise, ayant lu La société féodale de Marc Bloch, j'ai retrouvé chez lui, en Allemagne, en Angleterre et en France, parfaitement le même type de conception du vivre ensemble que je l'avais vu dans le monde d'aujourd'hui. Et au fond, les philosophes constituent une sorte de relais, disons, entre cette ancienne société et le monde présent. Cela, c'est un fond qui traverse l'histoire, qui a traversé la Révolution française, qui a traversé les grandes révolutions, qui a traversé les Lumières, qui a traversé la Révolution industrielle, etc. Mais évidemment, le monde a changé et dans chacune de ces sociétés, il a fallu s'adapter aux nécessités de l'heure. Et une des grandes questions qui n'est pas encore totalement résolue et que l'on va retrouver dans la phase actuelle de la modernité qui est marquée par la mondialisation a été de savoir, dans le domaine de l'économie, comment arriver à concilier le statut du citoyen égal à tous ses membres, tous les autres citoyens, libres, avec la position de salarié subordonné travaillant pour une entreprise, dépendant d'une entreprise, dépendant d'un chef, dépendant de clients. Et ces deux images, pendant tout le 19e et pendant une bonne partie du 20e, sont rentrées en conflit. Aux États-Unis, par exemple, on a parlé de « wage slavery », la servitude du salariat, et vous savez probablement qu'en France, encore dans tout le début du 19e, a été assimilée la situation de travailleur salarié à celle du serf. Et du reste, disons que l'on prenne aux États-Unis, au départ de l'Union, les salariés n'avaient pas le droit d'être électeurs parce qu'ils n'étaient pas considérés comme de vrais citoyens. De la même façon qu'en France, tous ceux, en tout cas, qui occupaient une position de domestique, mais prise dans un sens extrêmement large, n'étaient pas considérés comme de vrais citoyens parce qu'ils étaient trop dépendants, ils n'avaient pas la stature du citoyen. Et donc là où les sociétés se sont montrées toutes créatives, c'est que chacune d'elles a trouvé un moyen de raccorder l'image du citoyen avec la réalité de la subordination et les impedimenta de la subordination. Mais chacune d'elles l'a fait à sa manière. Dans l'univers américain, la référence a été la référence du propriétaire. Et au fond, l'espèce de tour de passe-passe qui a été fait pour arriver à raccorder l'univers du travail à l'univers du propriétaire a été d'affirmer que, contrairement à l'esclave, le salarié est libre et propriétaire de son corps, et c'est en tant que propriétaire de son corps qu'il peut s'engager avec le propriétaire de l'entreprise dans un rapport contractuel entre propriétaires. Et tout le droit, disons, du travail américain a consisté à faire en sorte que l'on ne soit pas dans le règne du renard libre, dans le poulailler libre, mais que l'on obtienne une sorte de level playing field, de terrain de jeu, disons, horizontal, dans lequel les pouvoirs de négociation des deux parties étaient suffisamment équilibrés pour que l'on puisse avoir une compatibilité entre la situation de travailleur et la figure, disons, du citoyen. Et donc, même si ce domaine, à certains égards, fait référence dans le management bien au-delà des États-Unis, on voit que chaque pays a construit à sa manière les rapports de travail. Et au fond, on parle souvent de l'Allemagne, on parle souvent de la cogestion allemande, on parle souvent de la capacité des Allemands à négocier entre patronat et syndicats des accords qui vont être respectés par l'ensemble des parties. Mais il faut bien voir que cette manière allemande de gérer les rapports de travail se situe dans tout cet horizon historique d'une manière de vivre en société dans lequel on décide ensemble des affaires de la communauté. La France, elle, a choisi, disons, une autre voie qui a été essentiellement attachée à l'idée de statut et à l'idée de métier. Michel Crozier, évoquant les organisations bureaucratiques, écrivait la chose suivante concernant leur fonctionnement. Les subalternes n'auront jamais à s'incliner devant la volonté personnelle humiliante de quelqu'un. Ce qu'ils font, ils le font de leur propre volonté et en particulier ils accomplissent leurs tâches en dehors de toute obligation directe. Ils s'efforcent de montrer qu'ils travaillent, non pas parce qu'ils y sont forcés, mais parce qu'ils choisissent de le faire. Enfin, on retrouve à certains égards ce que disait le président Mitterrand. Et donc, ceci, en France, va marquer à la fois les rapports coutumiers de subordination à l'intérieur des entreprises, va marquer les rapports d'une entreprise avec ses clients, et va marquer également la manière, bien différente de la manière américaine, dont est conçu le droit du travail français, dans lequel, au fond, on va attacher les droits et les devoirs de chacun, très largement, à la position qu'il occupe dans la société. Donc ceci s'observe dans la place que joue le métier, dans les rapports, disons, hiérarchiques français, tout le respect, disons, que l'on a vis-à-vis de l'homme de métier, disons, de la compétence de l'homme de métier. mais l'on peut voir de manière plus générale dans le rapport aux clients. Je pourrais citer une entreprise du CAC 40 qui n'est autre que Lafarge, disons dans son rapport de 2004, si mes souvenirs sont bons, dans lequel il disait, à propos des commerciaux, leur connaissance intime des besoins de leurs clients leur permet de prescrire, je souligne prescrire, c'est la solution les plus adaptées, etc., etc. Et donc, on est dans une vision, mais qui n'est pas du tout propre, disons, à la farce. C'est une vision française extrêmement générale, dans laquelle le rôle de l'homme de métier par rapport à son client, c'est de s'appuyer sur sa compétence, la connaissance intime qu'il a de questions dans lesquelles son client est un peu béotien, pour arriver à la manière du médecin qui prescrit à son patient ce qu'il doit prendre, lui prescrire ce qui est bon pour lui. Avec du reste un mélange de choses qui est à la fois dans la capacité des Français, je crois que ça a été le cas effectivement de Lafarge, d'imaginer des choses auxquelles le client n'aurait même pas pensé, mais que le client est tout à fait ravi de trouver, jusqu'au fait que dans des activités de service, par exemple serveurs de restaurant, les Français sont parfois considérés comme étant peu ouverts, disons, aux désirs de leurs clients. Demander dans bien des restaurants à servir du ketchup avec des huîtres, je vous risquais fort de vous voir refuser cela. Donc cette spécificité, c'est les Français, cette spécificité française, donc avec à la fois, je dirais, ses lumières et ses ombres, est actuellement profondément déstabilisée par le tournant actuel de la modernité qui est lié à la mondialisation. Et qui est déstabilisée, disons, de plusieurs manières. Qui est déstabilisée à la fois de manière assez mécanique, à travers l'intensification de la concurrence mondiale, et qui est en même temps déstabilisée à travers, j'allais dire, les modes intellectuels ou les manières de gérer dont la mondialisation est porteuse. Et donc on voit, c'est que cette mondialisation, et on voit bien, par exemple, dans l'évolution actuelle de l'opinion française vis-à-vis des tenants du pouvoir, dans lequel un facteur de dégradation de l'opinion envers les princes qui nous gouvernent est lié à ce qui est considéré comme leur incapacité à protéger les Français contre la mondialisation. Et on voit comme les quelques hommes politiques, comme Arnaud Montebourg ou Jean-Luc Mélenchon, qui, eux, au contraire, voient plutôt leur popularité s'améliorer, sont ceux qui, à défaut, en tout cas, de réellement protéger les Français contre la mondialisation, du moins, ont la réputation de se battre pour arriver à l'obtenir. Alors, au fond, que se passe-t-il et pourquoi les Français? Et pourquoi un problème, justement, avec les Français? Parce que, justement, cette situation dans laquelle les effets, disons, contemporains, l'évolution contemporaine de l'économie est de favoriser l'instabilité des positions avec l'intensification de la concurrence n'est pas vécue de la même façon, ne prend pas le même sens, n'est pas vécue de la même façon dans les divers pays, y compris dans les divers pays européens et dans les pays de culture, disons, européenne, et donc n'est pas vécu de la même façon parce que cela prend le même sens. Dans un univers anglo-saxon, au fond, l'instabilité des positions paraît normale. Le rapport contractuel est par essence quelque chose qui se veut temporaire. Et à partir du moment où le contrat a été correctement défini, correctement négocié, on est dans un rapport considéré comme correct, le fait d'être amené à, par exemple, pour une entreprise, à licencier massivement une grande partie de son personnel parce qu'elle est en difficulté, paraît tout à fait normal. En France, on est au contraire, disons, dans un autre sentiment, dans un autre vécu. Parce que dans la mesure où le fait d'avoir accès à la pleine position de citoyen, y compris dans une position salariée, et d'avoir accès à une pleine dignité de citoyen et d'homme libre, est lié au fait que l'on a une position, une situation relativement fixe, eh bien, cette déstabilisation des positions a évidemment de grandes conséquences. On a eu un exemple emblématique dans le cas de l'évolution de France Télécom, dans lequel on a vu le sentiment et la fierté d'appartenance à l'entreprise plonger de manière radicale, avec dans les commentaires de ceux qui ont vécu la situation, je cite, « On met dans les boutiques des techniciens bourrus qui ne supportent pas l'idée de mentir un peu pour mieux vendre », ou encore, les gens n'ont plus de repères, ils sont comme des pions qu'on déplace. Donc, tout ceci, disons, au fond, pour un Américain, lui demander de changer, de passer d'une position technique, s'il est correctement reconverti, il n'y a pas de problème. Pour un Français, être technicien et avoir la fierté, disons, de technicien est quelque chose. Et être reconverti en commercial, surtout s'il faut mentir, est évidemment quelque chose d'un peu humiliant. En plus de ces effets mécaniques de la mondialisation, il me semble que, au fond, la forme de modernité qu'on a voulu développer en France, et en particulier dans les entreprises françaises, au nom justement du refus des archaïsmes français, au refus de l'accès à ce qui fait vraiment référence sur le plan mondial, était aussi une source de déstabilisation de ces rapports de travail et donc du malaise qui règne assez largement dans le monde du travail français. Je voudrais citer par exemple une question qui peut paraître très technique, mais qui n'est pas du tout si technique que cela, et celle qui a consisté pour beaucoup d'entreprises à vouloir considérer que la logique du métier était quelque chose d'archaïque et qu'on allait remplacer par quelque chose de plus moderne, qui était le développement d'indicateurs chiffrés, les fameux KPI, permettant d'évaluer la performance de chacun et d'encadrer chacun de manière beaucoup plus précise que la référence un peu vague au métier. Il faut bien voir d'abord que ces procédures ne sont pas appliquées en France de la même façon qu'elles le sont aux États-Unis. Aux États-Unis, elles sont appliquées dans un cadre culturel, moral, qui exige une certaine fairness dans l'obligation, la manière de les appliquer, et qui implique aussi, de la part de ceux qui établissent ces indicateurs, qu'ils doivent être à l'écoute du terrain, à l'écoute de leurs subordonnés, pour faire évoluer ces indicateurs, pour tenir compte de l'expérience, disons, du terrain. D'après les échos que j'ai eus de la manière dont ça se passe en France, je crois qu'on est dans un environnement bien différent et des pratiques bien différentes, dans lequel le manager français a beaucoup plus tendance que le manager américain à considérer que lui, il sait, que ses subordonnés ne savent pas, et que par conséquent, il n'a pas besoin d'écouter ses subordonnés dans la manière dont il va établir les fameux indicateurs. Avec, évidemment, les réactions symétriques, disons, des subordonnés, du type, eh bien, puisqu'on me demande de faire l'idiot, je vais faire l'idiot. Et je vais donc appliquer bêtement les indicateurs et les stratégies, etc. Alors, ceci fait partie, disons, des sources de problèmes dans les effets de la mondialisation et de la modernisation que l'on pense appliquer en France. Puis, autre question qui fait, disons, l'objet de grands débats. On a beaucoup parlé, disons, de la décision remise, mais qui risque de revenir de notre président de taxer à 75% les revenus d'un certain niveau, et en particulier les revenus des grands patrons. Eh bien, là aussi, on a, au fond, à certains égards, un effet de la modernité, de la mondialisation modernisatrice, dans laquelle on a dit, mais au fond, après tout, pourquoi ne pas s'aligner, même si c'est un temps en dessous, sur les revenus des patrons américains ou anglais ou d'autres pays. Et disons, les anciens patrons, ceux qu'ils étaient il y a 10 ans ou il y a 20 ans, sont quelquefois surpris du changement qui s'est passé. Tel d'entre vous m'a dit un jour que son successeur a été rémunéré en euros, comme lui-même était rémunéré en francs, et que ceci avait représenté quand même un changement, disons, non négligeable, disons, d'univers. Et dans cette vision, si vous voulez, on participe au fait que, pour l'opinion, les grands patrons tendent à être assimilés à certains égards à l'univers de la jet set, avec les footballeurs, les joueurs de golf, les joueurs de tennis, etc., avec les mêmes privilèges et donc les mêmes types de revenus, enfin encore que peu de grands patrons ont les niveaux de revenus de Tiger Woods ou de Federer, mais en même temps avec cette même image un peu problématique, enfin qui ne suscite pas, en tout cas je pense, le même respect que le suscitait l'image d'un patron totalement dévoué à sa tâche, et le risque de réaction à l'intérieur du corps social, qui soit un certain risque de dire, mais au fond, puisque les autres défendent leur intérêt, pourquoi moi-même je ne le ferai pas de la même façon. Et donc, derrière tout cela, c'est vrai qu'on a un climat qui, à certains égards, s'est dégradé. Alors, par rapport à cela, si vous voulez, au fond, on peut dire comment la France peut-elle réagir pour, si l'on peut dire, rentrer dans la modernité, enfin, encore qu'à mon sens, elle ne l'est pas vraiment quittée, simplement elle est moderne à sa manière, et pour arriver donc à relever, disons, les défis contemporains, tout en tenant compte de manière réaliste de ce que sont les Français, de l'univers de sens dans lequel vivent les Français. On peut souligner que, au fond, on a actuellement deux discours qui sont très répandus, qui sont deux discours extrêmement imaginaires, qui font l'un et l'autre bon marché de la réalité. L'un qui est un discours que l'on peut qualifier, disons, d'hyperlibéral, dans lequel il s'agit de dire, mais au fond, les Français sont conservateurs, les Français n'ont qu'à s'adapter, et en tout cas, les Français n'ont qu'à faire comme les autres. J'avais noté, par exemple, au moment où il y a eu le grand débat autour du projet de constitution européenne, maintes propos disant que la compétition internationale est une donnée dont aucun pays ne peut s'abstraire, sauf à faire le choix de l'immobilisme et de la pauvreté, ou encore les partisans du non se retrouvent avec un tas de ruines, une France inaudible et incomprise de ses partenaires, contrainte avec retard et avec des coûts plus élevés à s'adapter aux exigences du temps sous peine de décliner inexorablement, etc., etc., etc. Et pendant ce temps-là, face à cela, ils ont un discours radical disant qu'au fond, il faut défendre bec et ongles le modèle social français, surtout sans rien y changer, avec des propos tels que « soit la gauche prend au mot ce qu'elle dit, nous vivons une crise de régime, le libéralisme est une déferlante, et alors elle s'unira sur un vrai projet de gauche et crédible et se rassemblera pour la défense, par la rénovation du modèle français, elle sera utile aux Français, efficace pour la France, soit elle s'émiettera, les liquidateurs l'emporteront, et personne ne sait quand et comment elle s'en remettra. » Donc, on a eu un débat extrêmement passionnel, disons, et je dirais que si l'on prend les événements tout à fait récents, disons, autour des fermetures d'entreprises, de Florange, etc., on a assisté toujours, disons, à cette coexistence de deux discours. Par rapport à cela, je crois qu'il faut bien voir, disons tout d'abord, que dire que les Français partagent un certain univers de sens, ont une certaine manière de concevoir ce que c'est un citoyen, ce que c'est un homme accompli, ce que c'est qu'un travailleur, disons, digne, ne veut pas dire que la France est condamnée à des manières d'agir, à des manières d'être qui sont fixes et qui ne sont pas susceptibles, disons, de transformation. Si on prend sur l'histoire de France, on voit que le culte de la grandeur est un trait commun, disons, de l'histoire de France, il a inspiré, disons, toutes les sociétés, mais au fond, il a pu se manifester dans au moins trois voies très diverses et qui ont conduit, du point de vue de la grandeur de la France effective, à des droits très différents. Il y a eu un registre qui a été, qu'on trouve par exemple très fort dans les propos de Sieyès, qu'est-ce que le tiers-état, le best-seller de 1789, qui est le registre de la morgue et du ressentiment, qui a conduit à la terreur, qui a conduit au massacre de septembre, etc. La France connaît aussi une forme de grandeur, je dirais, du registre de la futilité, la régence, la belle époque, les grandes cocottes, etc. Et puis, la France connaît aussi un registre de grandeur, qui est celui qui l'a marqué après la Deuxième Guerre mondiale, qui est un registre de l'engagement dans des projets de grande construction, un engagement dans l'innovation, un engagement dans, là, une forme de grandeur qui est une grandeur créative. Et cela peut être associé, si vous voulez, au fait que si cette image de la grandeur française peut être pour tout un chacun mise en rapport avec une certaine forme d'honneur, on voit coexister et justement s'activer selon la situation dans laquelle on se trouve, tantôt une forme d'honneur, disons plutôt constructive, qui invite à créer, à innover, à entreprendre, etc., et à réaliser, disons, de grandes choses, mais pour ceux qui sont mis dans une situation dans laquelle ils ont la possibilité de réaliser. Et puis, au contraire, pour ceux qui n'ont pas cette possibilité, une forme d'honneur plutôt défensive dans laquelle il s'agit de s'attacher bec et ongles à un statut et d'empêcher, disons, quoi que ce soit qui remette en cause ce statut. Dans les discussions, disons, récentes autour des rapports sociaux et de l'évolution des rapports sociaux, on a vu que certaines organisations syndicales, me semble-t-il, sont restées dans cette perspective, disons, de défense bec et ongles d'un statut. Mais en même temps, cette défense bec et ongles n'est pas une donnée de nature, parce qu'elle dépend aussi, et elle est d'autant plus activée que ceux qui l'adoptent ont le sentiment que les puissants, à qui il revient de donner l'exemple, ne les traitent pas avec les égards qu'ils mériteraient. Alors, dans cela, pour conclure, je dirais que la France a quand même de solides atouts à cultiver, à condition de bien les prendre, et a des possibilités d'éviter les dérives qui l'empêchent de rentrer dans le plein pied de la mondialisation et de se moderniser à la manière dont elle-même peut se moderniser. Manière qui a son aspect traditionnel, mais comme la manière américaine de se moderniser a son aspect traditionnel, ou la manière allemande de se moderniser a son aspect traditionnel aussi. Il faut bien voir que ce rapport français, cette conception française du métier, bon, est peut-être parfois porteuse d'un excès d'indépendance que les entreprises peuvent trouver regrettable, mais qu'elle est porteuse aussi, dans un monde qui est un monde turbulent, disons, d'une capacité à régler soi-même et sans avoir besoin qu'on vous tienne par la main, toute une série de problèmes qui sont des problèmes qui sont suffisamment complexes et vagues pour qu'on n'ait pas pu vous donner des instructions très précises sur la manière de les traiter. Je peux vous donner un petit exemple. J'avais eu l'occasion de parler avec les gens de Schlumberger, disons de leur personnel des diverses nationalités, et qui me disaient que les Français étaient incomparables quand il s'agissait de se débrouiller sur un terrain local, fort loin du siège, avec des problèmes dont il était extrêmement difficile à expliquer et sur lesquels on ne pouvait pas leur donner d'instructions, et donc que leur capacité autour de cette référence au métier, du dévouement du métier, de la connaissance du métier, etc., est quelque chose qui est loin d'être négligeable. Et il me semble que plutôt que de tenter de reformater leur français à grands coups de université d'entreprise, où l'on fait venir à grands frais des professeurs américains chargés d'enseigner aux Français les bonnes théories dites universelles du management, il y aurait un effort à faire pour mieux tirer parti de la capacité des Français à s'autogérer et à faire, disons, des choses constructives. Et puis par ailleurs, il est vrai que dans la situation actuelle, cette forme française de grandeur attachée au fait d'avoir une position bien définie dans la société, associée à un statut et à un métier, crée des problèmes dans un monde turbulent, dans un monde dans lequel des reconversions sont nécessaires et dans lequel les entreprises sont bien obligées de transformer leur appareil de production. Mais là encore, il me semble que les Français, la France, est loin de faire tout ce qu'elle pourrait faire pour gérer ce type de situation et pour gérer ce type de situation en accord avec ce que sont les Français. Et pourquoi ? D'où viennent les difficultés ? Bien, il me semble au fond que les difficultés viennent, certaines rencontres à des tas d'égards, d'une pensée modernisatrice et d'une pensée, je dirais, socialement conservatrice. Dans une pensée modernisatrice, le point de vue, que j'ai lu quelques textes dans ce sens-là, est de dire les gens n'ont qu'à s'adapter, ils n'ont qu'à se débrouiller, et voilà, bien c'est normal, le monde change, soyons modernes et allons de l'avant. Et dans une pensée socialement conservatrice, je pense par exemple à tel ancien ministre du Travail il y a assez longtemps, dans une réunion avec son cabinet, déclarant qu'il était scandaleux de dire qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes d'employabilité, que s'il y avait des problèmes dits d'employabilité, c'était à cause de ces méchants employeurs et pas du tout du fait de la faute de ces travailleurs totalement innocents de ce qui pouvait leur arriver, de leur difficulté à retrouver du travail. Au fond, ces deux pensées vont se rejoindre dans le fait qu'il n'est pas nécessaire de faire de grands efforts pour développer l'employabilité de ceux qui sont amenés à se reconvertir. Or, il y a des entreprises qui ont fait des expériences, qui, en accordant une grande place à ces questions, sont arrivées à des réussites dans la reconversion de leur personnel sans rapport avec le niveau standard de ce qui est obtenu en France. Et là encore, je pense qu'une des voies françaises dans la modernité et dans la mondialisation est donc à la fois de tirer pleinement parti, disons, des atouts français et de cette capacité, disons, d'autonomie française, et en même temps de régler les problèmes et les difficultés liées à ce qui peut apparaître ou ce qui est, disons, un manque de flexibilité. Alors, je dirais, pour tout à fait conclure, que les Français se sont vus longtemps comme devant montrer la voie au monde, tant devant être ceux qui expliquent à tout le monde ce qu'il faut faire, et que le fait qu'ils ne montrent plus la voie au monde est quelque chose d'un peu frustrant, humiliant, et donc la tentation me paraît grande de rejeter dans une sorte de grand geste de dépit ce que l'on a été, et de passer de l'arrogance à la dépression, et du coup de se dire que pour rester grand, il faut accéder à l'universel, mais il faut accéder à l'universel non plus en étant soi le modèle de l'universel, mais en copiant en quelque sorte ceux qui sont les nouveaux représentants de l'universel. Mais il me semble que pour la France, une autre voie demeure, une voie sans doute plus modeste, d'admettre que la France n'est que la France, elle n'est pas le modèle, disons, pour le monde, mais qu'en même temps qu'elle n'est que la France, elle a quand même quelque chose, disons, à apporter au monde, et enfin une voie réaliste qui admet une société tout en pouvant, à des tas d'égards, changer, en même temps, a de grands mythes, et que les mythes français ne changeront pas plus que les mythes des autres pays. Merci à vous.
Vous venez d'entendre la communication de Philippe Iribarne, intitulée « Une voix française dans la mondialisation », une intervention prononcée le 21 janvier 2013 devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Une retransmission de Canal Académie.